Je vais dans un premier temps rappeler le contexte de cet épisode de la vie d'Élie. Nous allons voir ainsi comment Élie passe d'un ministère de puissance et de force à une période de profond désespoir, de grand désarroi, mais qui est un passage pour rencontrer Dieu. À cette époque, le peuple juif s'est détourné du Seigneur et adore d'autres dieux, influencés par l'attitude de leur roi, Akab. Élie est envoyé pour dénoncer cela, et dans le chapitre précédent, chapitre 18, il vient de défier les prophètes du dieu Baal. Vous connaissez bien ce célèbre événement. Élie fait établir sur le mont Carmel deux autels avec des sacrifices, un pour le dieu Baal, un pour l'Éternel, et il met au défi les prophètes de Baal de faire embraser l'autel par leur invocation. Élie veut prouver au roi et au peuple qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, l'Éternel. On doit reconnaître à Élie une énergie et une force physique et psychique hors du commun. Tout d'abord, Élie a une grande parole d'autorité sur le roi Akab, donnée par Dieu, mais tout de même, cela montre la force de caractère d'Élie. C'est lui qui convoque Akab et le roi obéit. Il accepte le défi proposé par Dieu à travers Élie. Élie convoque aussi les prophètes et le peuple d'Israël sur le mont Carmel. Et tout le monde se déplace. Puis ensuite, il construit tout seul l'autel qui avait été détruit. Il creuse un fossé tout autour de cet autel. Il prépare un sacrifice, seul. Au chapitre 18, le verset 33 dit « Il arrangea le bois et découpa le taureau ». Quelle énergie ! La manifestation de puissance de Dieu est remarquable. C'est un des miracles les plus puissants, un des plus spectaculaires et forts de toute l'histoire d'Israël. En effet, tout l'autel est consumé, même les pierres, alors que ce dernier était complètement détrempé. Cela provoque la stupeur du peuple qui est complètement retourné par ce miracle, qui suit Élie et l'aide à l'exécution de tous les prophètes de Baal. Pour rappel, Élie et le peuple exécutent 450 prophètes. On peut aussi noter la stupeur d'Akab, qui constate la défaite, lui aussi, est retourné par l'événement. Il ne s'oppose pas au massacre des prophètes. Cela nous laisse entrevoir la puissance et la gloire reflétées par cet événement. Après avoir déployé toute cette énergie, il y a à nouveau une nouvelle démonstration de la vitalité et de la force quasi surhumaine d'Élie. Il court devant le char d'Akab depuis le mont Carmel pour arriver avant lui au palais de ce dernier. Il veut ainsi s'assurer que le roi va continuer dans cette voie et promulguer de nouvelles lois pour que le peuple revienne à l'adoration du seul Dieu d'Israël. Il y a pour Élie le grand espoir d'un renouveau pour son peuple, d'un vrai retour à l'Éternel. À travers tout ce récit, on voit bien qu'Élie est plein de force, de courage, d'une énergie incroyable, une force physique et psychique hors du commun. Élie dit lui-même à Dieu, j'ai agi avec zèle. Pour moi, c'est un euphémisme, c'est plus que du zèle. Nous croyons bien sûr que Dieu lui insuffle certainement cette énergie, mais tout de même, quel personnage puissant. Le roi, quant à lui, est faible et soumis à la reine. Et c'est elle qui a le vrai pouvoir de régner sur le peuple. Et elle n'est pas prête à arrêter l'idolâtrie. Face à la menace de Jézabel sur sa vie, Élie éprouve de la crainte et fuit. La fuite se fait à nouveau à travers une démonstration d'énergie. La distance du mont Carmel à Beersheba est de plus de 200 km. Il y dépose son disciple pour s'isoler encore d'un jour de marche dans le désert. Alors aussi grande qu'ait été la force et la puissance des actes d'Élie, aussi profonde est la déception qui s'empare de lui. En effet, après toute cette force, cette énergie déployée, il connaît une grande dépression. J'ai cette image d'un soufflet qui retombe, comme si la pression s'inversait. Il est vidé de tout ce qui l'animait. Il n'en peut plus. Il demande la mort. Tout s'arrête. Il s'abandonne sous un genêt. C'est l'immobilisme total après tout ce qu'il a accompli. Comme diraient les jeunes, Élie est au bout de sa vie. Il ne peut plus déployer la moindre énergie, la moindre vitalité pour quoi que ce soit. Il s'allonge, reste impassible, attend la mort, la demande même. C'est un épuisement profond qui s'empare de lui, car c'est sa personne même qui est remise en question. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Lui qui a connu, comme on l'a vu avant, la puissance dans le zèle, l'énergie déployée pour l'œuvre du Seigneur, là, il n'a plus aucune force. Au début, je voyais cette fuite comme une angoisse d'être exécuté par Jézabel. Mais je ne pense pas que ce soit de l'angoisse. Élie fuit par sagesse, mais surtout pour s'extraire de cette situation. Il est tellement déçu de lui-même de ne pas avoir réussi dans sa mission qu'il se culpabilise. Tout ce qu'il a accompli lui semble maintenant inutile, un peu comme s'il pensait tout cela pour ça. Voir tout ce qu'il a déployé pour ce résultat-là, avec ce roi, qu'il l'a trahi à nouveau. Il demande la mort car il ne comprend plus trop quelle est son utilité pour le peuple. Il a l'impression d'avoir échoué dans sa mission qui est terminée maintenant et ne veut plus vivre. Au verset 4, il dit « Je ne vaux pas mieux que mes pères », c'est-à-dire « Je n'ai pas plus réussi que mes ancêtres à remettre le peuple sur le droit chemin. Je n'ai servi à rien. » On sent une pointe d'amertume dans ce constat. Il ne comprend plus le plan de Dieu. Lors du dialogue avec Dieu sur le mont Horeb, on sent un peu de reproche envers Dieu. « Je suis resté moi seul. » Peut-être même un peu de colère aussi. Il préfère la mort à une vie d'échec, d'inutilité et d'incompréhension de cet échec. Mais Dieu est présent. Lui, il veut une rencontre avec Élie, mais pas n'importe comment. Cette rencontre ne s'accomplit pas directement, et c'est là où l'on voit le soin que Dieu prend pour son prophète. Il sait exactement ce que vit Élie et comble tout ce qui est vide, soigne tout ce qui est abîmé. Élie est déçu, se culpabilise, se dévalorise. Dieu lui envoie un ange pour le réconforter. Il a conscience qu'Élie est vidé de force et d'énergie et il le nourrit avec deux repas qui lui donneront la force de marcher 40 jours et 40 nuits dans le désert. Élie est abasourdi par l'intensité de tout ce qu'il a vécu. La puissance et l'énergie déployées dans le précédent épisode l'ont emmené dans un tourbillon. Il a besoin de se retrouver. Il a besoin de calme, de solitude et de se recentrer sur lui. Ces 40 jours et 40 nuits sont nécessaires pour retrouver le dialogue intérieur et avec Dieu. La distance qu'il parcourt ne nécessitait que 8 jours de marche. Alors on voit bien que ce temps est vraiment mis à part par et pour Dieu. C'est le temps aussi que passera Jésus dans le désert avant sa crucifixion. Élie a aussi connu le combat. Le combat dans le défi, le combat contre l'idolâtrie, le combat contre les ennemis de Dieu, l'exécution des 450 prophètes, le combat dans la fuite pour protéger sa vie, Dieu lui apporte ce sas de paix et de repos, ce temps dans le désert. Il y a besoin de ce cheminement pour continuer avec Dieu. Ce cheminement est un sas avant la rencontre. Ça y est, Élie va pouvoir rencontrer Dieu maintenant. Et Dieu se présente à travers différents éléments. Pour moi, Dieu est potentiellement présent dans tous les éléments. C'est le même lieu que pour Moïse. On pense que le mont Horeb et le Sinaï, c'est le même endroit. Il se passe les mêmes phénomènes que pour Moïse. De plus, Dieu a déjà manifesté sa présence dans le feu, au mont Carmel aussi. Mais Élie, qui a tout mené à travers la puissance, la force et l'énergie, a besoin de connaître Dieu sous une autre facette. Et c'est Élie qui reconnaît la présence de Dieu dans le son doux et subtil. Au verset 12 et 13, après le feu, une voix de fin silence. Quel est ce silence ? Dans la Bible annotée, on trouve ma traduction préférée. Un son de silence que l'on ne perçoit qu'en l'absence de tout autre bruit. Qu'est-ce qu'il entend ? Quelle est cette perception très étrange qui le fait sortir devant le Dieu de l'univers ? Il y a autant d'expressions pour définir ce bruit que de traductions. On peut vraiment voir l'embarras des traducteurs pour nous définir ce qu'a entendu Élie, par le nombre d'expressions différentes que voici. Le bruit d'un souffle léger, un calme, une voix ténue, un son doux et subtil, une voix de fin silence, un murmure doux et léger. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir ce qu'il a réellement entendu ou perçu. Pour moi, ce que je retiens, c'est que c'est Élie qui a reconnu Dieu, précisément dans cette manifestation et pas dans une des trois autres. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. L'action douce et silencieuse de la parole agit mieux sur Élie à ce moment précis que les actes de puissance et de terreur qui ont jalonné sa route. Parfois, en effet, l'action douce et silencieuse de la parole agit mieux sur les hommes que les manifestations de puissance et de gloire. Jésus lui-même privilégie souvent cette action douce et silencieuse, quand il dessine des choses sur le sol, par exemple, quand il applique de la boue sur les yeux d'un aveugle, ou quand il prend dans ses bras les petits-enfants. Élie a besoin d'entendre Dieu dans ce son de silence. Il a déjà connu toute la puissance de Dieu. Là, il le découvre sous une forme douce, calme, qui le remplit. Et c'est de cela dont il a besoin à ce moment de sa vie. Dans le dialogue qui se noue entre Dieu et Élie, ce dernier se reproche des choses, se culpabilise, on l'a dit. Il ne comprend pas le plan de Dieu et est à la limite de le reprocher à Dieu. Élie met une échelle de valeur sur ses actes quand il dit « pas mieux que mes frères ». Il y a même peut-être un peu de colère, et d'orgueil blessé, certainement. Mais Dieu, lui, il ne lui reproche rien. Il ne fait aucun jugement sur l'attitude d'Élie. La seule réponse de Dieu, c'est, par cette voix de silence, la grâce, le réconfort par l'action de l'ange, l'encouragement, et surtout, pas de culpabilisation. Ainsi, alors si Dieu ne lui reproche rien, que lui dit-il ? Je continue la lecture du chapitre 19. Mais le Seigneur lui dit « Va, retourne par le même chemin à travers le désert et rends-toi à Damas. Tu y choisiras de ma part, avec l'huile d'onction, Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu choisiras comme roi d'Israël, avec l'huile d'onction, Jéhu, fils de Nimshi, et tu choisiras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méola, pour te succéder comme prophète. » Ceux qui échapperont à l'épée d'Azaël seront mis à mort par Jéhu. Et ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Moi, je laisserai vivre 7000 hommes du peuple d'Israël, à savoir tous ceux qui ne se seront pas mis à genoux devant le dieu Baal et qui n'auront pas donné de baiser à ses statues. Ainsi, Dieu va dérouler la suite de son plan, où Élie va encore prendre part. Il aura un rôle, mais c'est Dieu qui décide du qui, du quand et du comment. Pas Élie et son échelle de valeur et son rythme. Dans tout ce passage, à nouveau, aucun reproche. Pas de bilan comptable de Dieu pour dire ce qu'Élie a bien fait ou pas. Dieu répond à toutes les incertitudes et interrogations d'Élie en le projetant dans son plan à lui. Ce qu'Élie n'a pas accompli ou pas réussi à ses propres yeux, Dieu lui montre quels nouveaux personnages vont rentrer en scène pour faire revenir le peuple de Dieu dans la fidélité. Tout ne repose pas sur Élie. Dieu amène une autre vision des événements. Il fait sortir Élie de son analyse défaitiste et auto-centrée de la situation. Et tout cela sans aucun reproche, mais juste un son de silence, calme et subtil. Alors, moi aussi, dans ma vie, dans l'Église, dans le monde, tout ne repose pas sur moi. Sur ma responsabilité, sur ma volonté, sur mon énergie et mes capacités. Je dois dire que cela amène une grande paix et un réconfort. Comme dans le plan de Dieu, d'autres le feront avancer, d'autres se lèveront après nous. Nous devons le croire fermement. Ce texte et cet épisode de la vie d'Élie nous rappellent le plan de Dieu. Grâce et paix pour ceux qui lui appartiennent. Quelles leçons pour nos vies, notre travail, notre Église. Cela ne repose pas que sur nous. Dieu porte le plan et va plus loin, et voit plus loin. Alors, ce que je veux retenir de ce texte ce matin, c'est que, comme Élie, nous avons besoin de rencontrer Dieu. Mais nous avons besoin de le faire avec attention, pour savoir à quel moment et sous quelle forme il passe devant nous. Peut-être avons-nous besoin d'entendre Dieu dans un tumulte, une manifestation de puissance pour nous bouger et nous mettre en route. Peut-être avons-nous besoin d'entendre Dieu dans le feu, pour brûler nos peurs et nous faire avancer. Peut-être avons-nous besoin d'un murmure de silence, un souffle léger, pour nous donner du réconfort et de la paix.